Chapitre 6. Léa est partie. Elle m'a donné les clés du bureau, a lancé un au revoir à la cantonade, puis a détalé avec une hâte qui ne m'a pas rassurée. Désormais, la psychologue de la maison de retraite Léa Maris, c'est moi. La peur doit se lire dans mes yeux, car un grand brun dont je peux affirmer qu'il ne fait pas partie des résidents s'avance vers moi avec un large sourire. Salut, je suis Greg, l'animateur. Pas facile le premier jour, hein.
Je suis un peu perdue, mais ça va aller, merci.
T'inquiète, tout va bien se passer. Je suppose que Léa t'a dépeint un tableau horrible. Cette fille est l'incarnation du pessimisme. Viens, on va changer ça. Il glisse son bras sous le mien et m'entraîne vers les résidents qui n'ont pas bougé. Tour à tour, il me les présente. Je serre la main à chacun en essayant de retenir leur prénom, mais j'abandonne vite. J'en retiens 5. Lucienne, la dame au sac noir qui attendait son fils sur le banc ce matin. Léon, qui ne daigne pas lever les yeux de son smartphone. Marilyn, qui arbore fièrement une écharpe Miss Mamie 2004. Louise, qui a conservé ma main dans la sienne un peu plus longtemps que les autres. Et Gustave, qui me demande « Ça va, Lise ?» et rit fort quand je rétorque que je m'appelle Julia. Il me faut plusieurs secondes pour comprendre son jeu de mots. C'est encore lui qui, alors que je viens de donner la dernière poignée de main, se met à taper dans ses mains en scandant.
Un discours, un discours !
Immédiatement suivi par ses colocataires. Greg m'adresse un hochement de tête qui a tout l'air de signifier que je n'ai pas le choix. Je me racle la gorge, enfonce mes ongles dans le bloc-notes et me lance, avec ma voix d'aéroport. Bonjour à tous, je suis Julia, votre nouvelle psychologue. À compter de demain, je passerai chaque semaine dans votre chambre afin que nous fassions le point sur votre bien-être. Bien entendu, si vous avez besoin de moi, je serai disponible pour vous à tout moment. Je suis très heureuse de venir travailler au Tamaris avec vous et je ferai de mon mieux pour vous accompagner au quotidien. Quelques tièdes applaudissements accueillent mon discours. Tandis que les résidents s'éloignent, avec ou sans canne, fauteuil roulant ou déambulateur, Greg me rejoint. Il faudra parler plus fort la prochaine fois. Beaucoup de résidents entendent mal. Sinon, tu t'en es bien sorti. Même Léon n'a pas été trop désagréable.
Léon, c'est celui qui pianotait sur son téléphone, c'est ça?
Tout à fait. Un vrai geek. Il ne lâche jamais ses écrans, à part pour râler ou se plaindre. Je lui cherche des qualités depuis 2 ans, sans succès. J'ai plus de chances de trouver une zone sans botox dans le visage de Madonna que de l'humanité en Léon.
Pour la première fois depuis mon arrivée, je ris. Un peu trop fort, un peu trop longtemps, mais j'ai du mal à me contenir. Comme si chaque éclat expulsait une particule d'anxiété.
J'ai un peu de temps avant le bingo. Tu veux que je te fasse visiter le centre ? Me propose-t-il.
J'accepte volontiers, et pas seulement parce que son sourire mériterait sa place parmi les 7 merveilles du monde. Je ne connais pas les lieux, je me sens comme une nouvelle élève à la rentrée des classes. Je suis bien contente qu'un camarade propose de me tenir la main. Alors que je le suis, prête à noter sur mon carnet toutes les infos qu'il me délivre, dans mon dos, une voix chevrotante me parvient.
Elle est plus jolie que l'autre, mais elle a l'air encore moins aimable.
Chapitre 7. Quand les voix me parviennent, alors que je me trouve dans le parc des Tamaris en pleine nuit, je manque de faire une attaque. Je suis une peureuse. Fut un temps où j'étais affublée du surnom « Bou », et je dois avouer que cela me sied mieux que Julia. Je sursaute à chaque fois que je croise quelqu'un sans m'y attendre. Descendre des pistes bleues en chasse-neige s'apparente à un sport extrême et je me transforme en sirène de pompier dès qu'un chien m'approche. Une fois, je devais avoir 15 ans, j'ai entendu ma mère crier dans la cuisine. Je me suis précipitée. Elle tentait de maîtriser les flammes qui s'échappaient d'une poêle. Dans ma tête, je me suis vue attraper un torchon, le passer sous l'eau et étouffer le feu avec le plus grand flegme. Dans ma tête seulement. Parce qu'en réalité, j'ai juste réussi à articuler « Adieu maman » avant de détaler en hurlant. Une autre fois, alors que j'attendais Marc dans la voiture devant son bureau, un homme a tapé avec insistance à la vitre. Il faisait nuit et il arborait un chaton sur son t-shirt. C'était suspect. Ni une ni deux, je lui ai vidé ma bombe lacrymogène dans les yeux. Il s'agissait en fait du collègue de Marc, qui venait gentiment m'avertir qu'il aurait du retard. Alors cette nuit, quand les voix me parviennent dans le parc, mes jambes deviennent molles, ma gorge se noue et mon cœur joue du David Guetta. Vraiment, c'était une riche idée de sortir à cette heure-là.
Je ne parvenais pas à dormir, trop de choses m'encombraient l'esprit. Le moment parfait pour une cigarette. J'en avais un paquet dans la voiture, alors je suis descendue le chercher et, tant qu'à être dehors, j'ai entrepris de faire quelques pas dans le parc. À la lueur de la lune, je ne me suis pas vue m'éloigner autant du bâtiment. C'est en entendant quelqu'un parler que je prends conscience que je suis au fond du parc, là où personne ne m'entendra si je crie. La fatigue me fait faire n'importe quoi. Respirons. Il est plus de minuit et il fait, à vue de nez gelé, la même température que dans un pot de Häagen-Dazs. Il est fort peu probable que quelqu'un d'autre que moi soit suffisamment dingue pour s'aventurer dehors. J'ai imaginé ces voix, c'est la seule explication valable. Je vais regagner mon studio austère, m'enfermer à clé, pousser la commode contre la porte et je m'endormirai paisiblement. Voilà ce qui va se passer. En quelques foulées rapides, je rejoins l'annexe et j'entreprends d'y pénétrer lorsque des pas résonnent près du bâtiment principal. Tout en tentant d'introduire la clé dans la serrure, acte machinal qui se transforme en épreuve digne de Koh-Lanta quand on tremble comme une feuille, je lance quelques regards alentour pour identifier la source du bruit et manque de tourner de l'œil en apercevant une ombre qui se faufile derrière le potager. Je reste tétanisée quelques secondes, suffisamment pour voir la tête de l'individu émerger derrière le muret, se tourner dans ma direction et replonger brutalement. Je suis repérée. Vite, il faut que je monte me mettre à l'abri. Cette foutue clé va bien finir par glisser dans la serrure. Je ne vais quand même pas mourir ici, étranglée par un dégénéré dans le parc d'une maison de retraite, avec mon pyjama rose en pilou, ma doudoune et mes chaussons à tête de chat. Je change la clé de sens, appuie de toutes mes forces, invoque le dieu des portes, mais rien à faire. Elle s'obstine à refuser d'entrer. Dans mon dos, je perçois les pas qui s'approchent lentement de moi. Mon cœur ne bat plus seulement dans ma poitrine. Il bat dans mon cou, dans mes yeux, dans mes doigts, dans mes oreilles, dans mes cheveux, dans les moustaches de mes chaussons. Alors ça fait ça quand on sait que la fin est proche. On se transforme en vibromasseur. Mon assassin n'est plus qu'à quelques mètres de moi. Je peux presque sentir ses mains sur ma gorge. Quand même, mourir à 32 ans, c'est moche. Surtout qu'il n'avait qu'à pousser quelques mètres pour trouver une proie qui serait de toute manière décédée bientôt. Dans un dernier sursaut de lucidité avant le néant, je comprends que la clé que j'essaie désespérément d'insérer dans la serrure est celle du studio, pas celle du bâtiment. J'arrête de respirer le temps de saisir la bonne et lâche un cri de soulagement quand elle s'enfonce dans la fente. Je claque la porte derrière moi et monte les marches 4 à 4 avant de m'enfermer dans mon studio et de coller mon oreille contre la porte. Au bout de 40 minutes, force est de constater que la seule chose qui m'est suivie, c'est le silence. Au bout de 2 heures, mes muscles se sont décontractés, mes dents ont cessé de s'entrechoquer, mon cœur a repris son rythme normal. Il se peut que je me sois très légèrement emballée. Chapitre 8. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Louise est la première patiente de ma première journée. Assise dans un fauteuil tourné vers la baie vitrée, elle tricote tandis que je m'installe sur une chaise face à elle. Elle tremble un peu et fait de la vieillesse. Je tremble aussi et fait du trac. La décoration de son studio est chargée. S'y entassent des meubles disparates, des bibelots, des cadres photos, des livres, des tricots. Ils n'ont l'air de rien comme ça, mais chacun doit revêtir une valeur particulière à ses yeux. Elle a dû choisir avec soin ce qu'elle consentait à voir disparaître de sa vie et ceux qui l'accompagneraient dans sa dernière chambre. « Ça va de mieux en mieux », répond-elle en posant son ouvrage. « Je commence à prendre mes marques. Vous savez que je suis là depuis peu. J'ai lu ça dans votre dossier. Depuis 3 mois, c'est bien ça ? » ?»« Bientôt 3 mois, oui. J'ai d'abord passé 5 semaines à l'hôpital après mon stupide accident. » Puis les médecins ont décrété que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mes enfants m'ont donc trouvé une place ici. Il paraît que c'est le meilleur établissement de la région. Je n'y suis pas trop malheureuse. Vous voulez qu'on parle de votre accident, Louise ? Oh, je n'ai pas grand-chose à en dire. J'étais en train de faire le marché et bim, on m'a retrouvée par terre, inconsciente. Quand je me suis réveillée quelques jours plus tard, j'avais oublié les 40 dernières années de ma vie. Vous vous rendez compte, 40 ans envolés en quelques secondes. Qu'avez-vous ressenti ? C'était terrible. L'année de mes 30 ans, il y a eu un gros incendie dans la maison qu'on habitait avec mon mari et nos enfants. Il a tout détruit, tout.
nous avons perdu notre maison, nos meubles, nos papiers, nos vêtements. Mais ce qui m'affectait le plus, c'était la perte des souvenirs. Les photos des enfants lorsqu'ils étaient bébés, les diapositives, leurs dessins, leurs poèmes, les lettres qu'ils envoyaient depuis la colonie de vacances, les photos de mes parents, de notre mariage. Elle fait une pause et regarde par la fenêtre. « Sans tous ces objets, reprend-elle, notre mémoire n'a plus le droit de faillir. Elle n'a plus de doublure. Oh, quelle idiote, je ne vous ai rien proposé à boire. Voulez-vous un café, un thé, un chocolat? Ma fille m'a offert une machine très sophistiquée. Il suffit de mettre une capsule et la boisson chaude se prépare automatiquement. »
« Vous n'avez pas du whisky plutôt ?»«
Je veux bien un chocolat, merci. »
« Donc, on parlait de votre mémoire ?»«
Oh, je sais, » rétorque-t-elle en se dirigeant vers la kitchenette. « Ma mémoire immédiate fonctionne très bien, heureusement. Je vous racontais cet incendie pour vous expliquer ce que j'ai ressenti. Perdre ses souvenirs, lorsqu'ils sont matériels, c'est déjà douloureux. Mais cela n'a rien de comparable avec ce que j'ai ressenti lorsqu'on m'a annoncé que 40 années avaient disparu de ma mémoire. Vous imaginez ? Il y a 40 ans, mes enfants n'en avaient même pas 20. Mon mari était encore en vie. Moi-même, j'étais jeune. Mes petits-enfants n'existaient pas encore. Et je ne vous parle pas des téléphones mobiles, des dizaines de chaînes télévisées, d'Internet et des boucles dans le nez.
Lorsque j'ai lu son dossier, j'enviais presque Louise d'avoir pu oublier une partie de sa vie. Je donnerais pas mal de choses pour que les 6 derniers mois de la mienne disparaissent. Mais en la voyant lutter pour contenir ses larmes, je ne l'envie plus du tout. « Merci, » dis-je en prenant la tasse qu'elle me tend. « Comment vous avez fait pour accepter cette situation ?»«
Eh bien, c'est simple, » répond-elle en haussant les épaules comme si ça l'était vraiment. « Lorsqu'ils m'ont dit que ma mémoire ne reviendrait pas, j'ai eu 2 solutions. Soit je ne l'acceptais pas et j'étais malheureuse pour le restant de mes jours, soit je l'acceptais et je vivais mes dernières années sereinement. J'ai toujours eu un goût du bonheur assez prononcé.
C'est une belle philosophie.
J'ai beaucoup de chance, vous savez. J'ai 84 ans. J'entends encore le moindre pépiment d'oiseau. Je peux lire avec une simple paire de lunettes. J'ai même encore quelques vraies dents. Beaucoup n'arrivent pas à mon âge en si bonne forme. Et puis, mon passé n'a pas vraiment disparu. Je ne m'en souviens pas. C'est tout. Mes enfants, mes petits-enfants et mes proches s'en souviennent, eux. Ces 40 années ont existé. »
Elle se lève et attrape un cadre sur le buffet. Sur la photo, elle apparaît radieuse, entourée d'un groupe de personnes de tous âges.
« Regardez !» dit-elle en me le tendant. « Ce sont mes enfants et mes petits-enfants. C'était il y a 15 ans. Il manque mon dernier petit-fils et mes 2 arrière-petits-enfants qui sont nés plus tard. Mais c'est l'une des seules où nous sommes tous réunis. J'ai 4 enfants, 10 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants qui m'ont manifesté beaucoup d'amour depuis que j'ai repris mes esprits. Je vous prie de croire que je n'ai aucune raison d'opter pour le malheur. Vous avez une grande famille ? »
Je hoche la tête avant de changer de sujet. Si je vous demande votre niveau de bien-être sur une échelle de 1 à 10, Louise ne réfléchit pas longtemps avant de répondre.
Je dirais 9. J'enlève un point pour le réveil. Chaque matin, il me faut 10 bonnes minutes pour m'extirper du lit. J'ai l'impression d'être un petit bout de papier plié en 8, qu'il faut déplier avec soin sous peine de le déchirer.
Elle me dévisage tandis que j'écris ces informations sur le bloc-notes afin de pouvoir les ajouter à son dossier informatique. Puis, sans que je m'y attende, elle me pose une question.
« Et vous, sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous ? »